Campus Grenoble 90.8.
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apéro. L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio 90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour, we transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Campus Grenoble 90.
L'apérophonie.
Apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Campus Grenoble 90.8, c'est l'apérophonie alors. L'apérophonie, c'est le soir à 18h, rediffusion le lendemain en jour ouvrable à partir de 8h, d'où le bonjour ou bonsoir. Vous pouvez nous écouter en hertzien à l'ancienne, hein, avec votre bon vieux poste sur le 90.8, mais également vous pouvez nous écouter ou réécouter, soit en direct, soit avec la fonction podcast via le site campusgrenoble.org. Ce soir, dans l'apérophonie, nous allons parler de science, d'informatique, et pour cela, je reçois deux des membres de l'association Aconit. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais vous laisser prendre la parole, vous présenter, et surtout nous dire ce que veut dire Aconit, et quel est le but de cette association.
Alors, Aconit, c'est... Association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique. En effet, elle a été créée en 1985 et à l'époque, la télématique, c'était l'histoire du Minitel. Le Minitel, une belle aventure française, oui. C'est quand même 30 millions d'utilisateurs, 30 ans d'exercice fidèle et divers. Bien sûr, aujourd'hui, on dirait Association conservatoire de l'informatique et du numérique, bien entendu.
Tout à fait. Le but de l'association, c'est donc de conserver tous les éléments ayant attrait à l'histoire de l'informatique et ça commence à en faire un paquet.
Oui, oui. Alors, c'est vrai, année après année, nous bénéficions d'un mécénat fort. Hein. Tous les objets que nous avons, ce sont des dons. Ça représente aujourd'hui 30 000 objets qui sont hébergés sur 900 mètres carrés au cœur de la ville, à deux pas de la gare. Et ça nous permet à partir de là de retracer l'histoire de l'informatique, mais surtout les différents regards sur cette histoire. Aussi bien l'utilisateur que l'environnement sociétal, que le chercheur, comment on fait ces sauts d'innovation, ces sauts technologiques. Donc tout ceci est à disposition de tous les publics.
Ça permet notamment de voir que ce ne fut pas un long fleuve tranquille, qu'il y a eu plein de pistes qui ont été tentées, explorées, qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas eu de succès commercial ou de suivi de développement.
Vous posez vraiment mais l'histoire de l'informatique de bonne manière. C'est une création humaine, une suite de créations. Et bien sûr qu'il y a eu des impasses, bien sûr qu'il y a eu des échecs, bien sûr que des gens ont rebondi, ont développé, ont suivi d'autres pistes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'histoire de l'informatique, c'est 1950-1960, à Grenoble, avec un démarrage très fort, puisque le premier laboratoire européen IBM est installé à Grenoble, parce qu'on avait là des belles personnes en capacité de faire fonctionner ces beaux joujoux.
Ces gros joujoux même, parce qu'à l'époque, ça représentait quasi des pièces entières.
Oui, absolument. À cette époque, on portait le travail à la machine et on venait chercher les résultats.
Ça, on n'amenait pas la machine chez soi.
Pas vraiment.
Non, il n'y avait pas de télétravail encore.
Non.
Je vous dis ça parce que moi, j'ai des souvenirs de soirées électorales. C'est un peu la première fois qu'on voyait des gros ordinateurs pour les estimations, etc., etc. Et que en 74, c'est dire si je suis pas tout neuf, les images sur l'ordinateur envoyaient des gros rouleaux qui tournaient avec des plein de touches lumineuses qui s'éclairaient. Ça paraissait un tout petit peu aussi de la science-fiction. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde à ce moment-là qui se projetait dans l'idée que, à peine une quarantaine d'années plus tard, ça allait être dans le chez-soi de tout le monde, voire mieux dans la poche de tout à chacun.
Alors, c'est très amusant, on peut citer une anecdote, hein, c'est qu'au départ, quand on fait visiter cela, les quadras très forts en informatique nous disent « où est l'écran ?»
Ça, oui.
Et petit à petit, l'écran est arrivé pour suivre le travail de la machine. Et puis, comme la machine travaillait à son rythme, les informaticiens qui étaient là utilisaient la machine quelquefois un peu en temps partagé pour faire quelques jeux au passage. Mmh. Et c'est le jeu qui a développé la qualité des écrans actuels.
C'est ça, parce que moi je me souviens des premières interfaces de jeu que j'avais, alors sur des disquettes souples qu'il fallait charger systématiquement, et c'était sur un ordinateur qui servait dans une usine pour programmer des appareils à commande numérique, donc oui, c'était quand même quelque chose, et c'était évidemment un écran monochrome vert, un espèce de simulateur de vol, où il fallait se dire qu'en fait, ce qu'on regardait, c'était l'intérieur d'un cockpit d'un appareil, d'un avion. Et il fallait faire quand même d'énormes efforts d'imagination pour comprendre ce qu'on était en train de faire. Hein, parce que c'était assez loin de ce qu'on a pu voir. Et effectivement, il y a des évolutions assez dingues et assez rapides dans certains domaines.
Bah, vous venez de citer quelque chose qui est vraiment important. L'intelligence dont ont fait preuve ces générations, avec le peu de puissance qu'ils avaient en main et les résultats qu'ils ont obtenus. Et c'est tout l'intérêt de visiter, de se replonger dans le passé, d'aller au contact, parce que ces générations, elles sont toujours vivantes. Nous, à Aconit, on a la chance d'avoir ceux qui étaient là, qui ont démarré les ordinateurs avec M. Kunzmann dans les années 60. Le premier CCIG, le premier centre de calcul et d'informatique grenoblois. Donc, vous décrivez quelque chose qui est très intéressant, parce que lorsqu'un enfant aujourd'hui voit ça, il nous dit « c'est quoi ce dinosaure ?» Et on lui dit « tu sais qu'on était sur la Lune ?» Il dit « ouais, ben, avec ton téléphone, tu étais sur la Lune ?» Non. Ben, avec le dinosaure, on y était. C'était peut-être un peu rapide, mais enfin, ça capte l'attention
oui,
pour
c'est
le,
ça,
la fin de la visite, quoi.
Ben, c'est ça, en fait, l'idée aussi de l'association, c'est la médiation du propos, c'est-à-dire la préservation du patrimoine, mais aussi de la transmission. Sinon, si c'est juste prendre la poussière dans des hangars, c'est un peu dommage.
Oui. Vous avez vraiment le mot juste, la médiation, c'est ce qui est de plus important. Et quand on a la chance d'avoir les générations qui ont vécu cela et qui peuvent vraiment mettre en scène et partager ce qu'était à l'époque l'ambiance du travail ou l'ambiance de la recherche, là, on touche vraiment à l'excellence.
Et puis, je pense que si on est capable de montrer d'où on vient et vers quoi on aboutit, ça peut aussi créer des vocations pour ceux qui veulent partir de ce qu'on a maintenant vers les prochaines générations d'appareillages et d'outils qui seront créés. Ça peut aussi donner des idées et des vocations.
Ça donne de l'espace. Vous avez tout à fait raison. Savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre ce présent facilite la construction du futur. Parce qu'on prend la mesure des choses.
Oui, puis c'est peut-être une bonne appréhension de l'appareil aussi pour ceux qui ont un petit blocage de départ sur l'activité avec un ordinateur. Ça peut être aussi montrer le côté ludique et de où on est parti. Ça peut faciliter et dédramatiser la chose. Moi, je me souviens les premiers cours qu'on a eus à l'école pour nous montrer un ordinateur avec un TO-7 ou un MO-5, je ne sais plus lequel des deux on a eu en premier, mais enfin un des deux. Je peux vous dire que, la personne qui était là pour essayer de passionner 30 élèves de la cambrousse profonde de la France des années 80, il a un peu lutté quand même, hein, parce qu'au départ, on était assez loin de voir ce à quoi ça pourrait bien servir un jour, et quelle était l'utilité immédiate pour nous, et que finalement quel était l'apport par rapport au support papier auquel on était habitué en tant qu'élève, bien formaté, bien préparé. Et d'un coup, c'était quand même un saut dans l'inconnu et qu'il a fallu beaucoup, beaucoup d'efforts pédagogiques.
La situation que vous décrivez est vraiment importante parce que c'est la difficulté que l'on rencontre à chaque étape de l'informatique. À l'époque, vous avez des enseignants qui, par eux-mêmes, sont allés chercher, ont essayé de comprendre, ont intégré. Il y en a d'autres qui ont attendu qu'on les accompagne dans leur propre formation. Et c'est vrai que la situation que vous décrivez est passionnante parce que nous, combien de fois on voit des enseignants qui viennent avec des classes dans nos réserves pour faire un parcours de sensibilisation dans le cadre d'un projet pédagogique, c'est vraiment passionnant. Ce sont des gens vraiment remarquables.
Et ça tombe bien qu'on aborde ce sujet-là, puisqu'en fait, vous êtes ici aussi pour parler de vos interventions sur la fête de la science.
Oui.
Et que la fête de la science, c'est quand même beaucoup d'enseignants qui emmènent leurs élèves voir des expos, voir des installations, etc., etc. Et que peut-être pour les élèves, quand on arrive avec une classe de 30 ou 35, tout le monde n'a pas un niveau homogène par rapport à l'informatique. C'est-à-dire que forcément, il y en a qui ont des parents qui en ont chez eux et qui sont très habitués. Et le niveau de l'accès aux ordinateurs, aux tablettes et autres choses, et de l'intérêt qu'on peut avoir quand on a 4, 5, 7, 10 ans sur le sujet, est forcément très variable.
Alors, c'est à nous, si vous voulez, à observer les jeunes qui arrivent, parce qu'il y en a qui ont des difficultés de concentration, il y en a qui, au contraire, sont scotchés. Donc, à nous, essayer de faire des petits groupes. On ne peut pas traiter de la même manière dans un groupe de 30, ce n'est pas possible. Et l'intérêt, c'est ce que nous préparons avec les enseignants, c'est qu'en faisant des petits groupes, ils ont, mettons, okay, 32, 4 fois 8, 32, quand ils vont rentrer, ils vont faire un retour. Et chaque groupe aura eu un pilote différent. Et chaque groupe est différent.
Voilà.
Ils pourront construire en retour quelque chose qu'ils partageront et qui marquera une étape où ils auront été ensemble à la conquête de cette histoire, quoi.
Et ben justement, on va parler de votre présence donc, sur la fête de la science. On a bien compris qu'à Konit, c'était la préservation du patrimoine, mais aussi la transmission. Là, vous avez trois expositions actuellement. Vous allez avoir trois expositions quasiment de façon concomitante et votre présence sur la fête de la science.
Oui.
La rentrée, c'est à fond. Hein.
Ouais. Alors pour ça, il faut resituer notre action à l'heure actuelle. Notre Allons-y. Action est soutenue par Grenoble INP et l'UGA. Dans le cadre des initiatives d'excellence, vous savez, les fameuses IDEX. Et le projet, c'est le rayonnement culturel et social et axé à partir du patrimoine informatique grenoblois. C'est donc
vaste.
La troisième année où nous sommes là. Donc, nous sommes partis avec Histonum à Grenoble. Maintenant, c'est Histonum dans les Alpes. Et nous avons, autour de la fête de la science, développé des lieux de présentation. Donc cette année, nous nous retrouvons au sud de Grenoble, à Échirolles, avec une exposition sur une brève histoire de l'informatique, du calcul au dernier développement Internet, qui est au cœur de la mairie, puisque maintenant les gens vont à l'état civil, il faut qu'ils remplissent leurs documents.
Eux-mêmes.
Donc d'avoir une brève histoire, de pouvoir s'accrocher à quelques éléments pour continuer ensuite à s'enrichir, c'est cela. Ensuite, nous arrivons au lycée Marie Curie. Très, très beau lycée, très bien géré, superbe. Et là, avec des jeunes fabuleux, on a été accueillis. On a là une exposition qui fait plus de 120 mètres carrés, où l'on attaque depuis le calcul, les origines du calcul, les Sumériens, on calcule sur les doigts, les objets de calcul, ensuite les machines à calculer, jusqu'au dernier développement.
Pascal, tout ça, quoi.
Ah, la Pascaline,
oui.
Un grand moment. Et jusqu'au dernier ordinateur, avec un petit pôle, sympathique où les lycéens peuvent s'organiser pour faire des concours de rétro gaming.
Non mais c'est bien, c'est parce que outre, donc on disait que le jeu a eu un fort retentissement dans le développement des capacités de calcul, etc., pour le développement de l'informatique, mais c'est vrai que le côté rétro gaming, à part le côté extrêmement ludique, ça permet aussi, quand on a un smartphone dans sa poche, de voir d'où on vient et de se dire que mince, il y a 15 ans, ils en étaient là, c'est quand même allé très très vite. Et là aussi, ça peut susciter des façons d'envisager le sujet différentes.
Oui, il y a l'entrée dans le jeu, puis la sortie du jeu. Et là, on a eu un accueil avec les enseignants, avec les jeunes. Moi, la récréation, là, on vient de finir l'installation là, à 16h.
J'ai vu quelques photos hors antenne. Et en plus, elle est très belle, l'expo.
Vraiment, on a un accueil dans un très, très, très beau lieu. Et déjà, les jeunes se sont agrégés autour de cela avec une belle participation de plusieurs enseignants.
Bah oui, en plus des panneaux explicatifs et de quelques vidéos, vous avez aussi des objets à montrer, ce qui évidemment est quand même plus facile que quand on fait une expo sur la préhistoire où on ne peut pas amener la moitié d'un dinosaure parce que c'est quand même un peu compliqué. Exact. Alors que vous, en matière d'informatique, les dinosaures, on peut les transporter, certains. Pas tous, mais quelques-uns quand même.
On fait une sélection.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on peut s'appuyer d'une part sur des vidéos hein, quand on n'a pas la possibilité de l'amener. En application, la vidéo permet de prendre la mesure. Et puis, nous avons des textes qui ont été rédigés par de jeunes étudiants. C'est-à-dire que nous, on a dit tout ce qu'on savait, n'est-ce pas ? Mais eux, ils l'ont mis de façon à ce que ce soit compréhensible.
Oui, voilà, un public non spécialiste.
Accessible à tous, voilà. Alors ça, c'est la deuxième partie.
Lycée.
Et la troisième partie, alors, c'est la partie enseignement supérieur. Vous savez qu'il y a l'Institut de communication et de médiation, donc il se trouve à deux pas. Hein.
À deux pas de Ève, ici, voilà. En plein cœur du campus à Saint-Martin-d'Hères.
D'autre part. Alors que sur Échirolles, vous avez un très beau bâtiment donc qui se trouve entre la rampe et la place où il y a les cinémas.
Tout à fait.
Et Marie Curie est au sud des cinémas. Donc vous voyez, là, on a un triptyque où les gens peuvent se promener l'un à l'autre avec des visites guidées. Parce que, bon, évidemment, on ne rentre pas au lycée comme on veut. Mais s'ils nous demandent, on fait une visite guidée. Et à l'intérieur du lycée, donc, Madame la Présidente nous autorise à guider ces visites. Donc, quand on est à l'Institut de communication, il y a également l'école du journalisme, pas mal de choses. Donc là, nous avons dans l'atrium, dans l'entrée qui est magnifique, fait une allée qui permet de voir les adaptations, voir et écrire. Quand on est à l'Institut de communication, on aimerait bien savoir l'informatique qu'on utilise. Bon, comment ça fonctionne pour voir et écrire. Donc là, pareil, on a reçu un accueil vraiment très, très, très amical de tout le monde, aussi bien des gardiens que... Et nous avons mis aussi une petite application, histoire d'envoyer des tweets avec un Minitel. Vous voyez, ça.
Ben oui.
Il faut... Tous ces objets communiquent entre eux. Mais faut-il encore le savoir et comment le faire ?
Oui, voilà, c'est ça.
Donc quand on utilise un Minitel pour envoyer un tweet, c'est assez sympathique.
On s'y attend pas, en tout cas.
Et après, on a mis une petite commande audio à côté. Donc, on peut également visiter le site internet d'Aconit, aconit.org, en demandant à la voix, n'est-ce pas, que l'on nous affiche sur l'écran le site et que l'on nous promène à travers différentes applications.
Très bien. Donc, les trois expositions se voient actuellement à Échirolles.
Voilà, jusqu'au 6 novembre.
6 novembre, c'est ça. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Et ensuite, on parlera plus spécifiquement de vos interventions sur la fête de la science.
Avec plaisir.
Si ça vous convient.
Très bien.
Vous écoutez Campus Grenoble 90.8, c'est l'apérophonie. Et on va vous faire gagner des places pour aller voir des concerts dont on est partenaire. Jeudi de la semaine prochaine, le 10 octobre, à La Source, à Fontaine, Julie Bally a invité les Soviets Soviets. Pour une soirée où on devrait se mettre de bonnes ondes dans les oreilles, à coups de guitare, un peu de clavier et beaucoup d'effets. On est très content, Julie Bally en profitera pour célébrer la sortie de son premier album. Donc, je suis sûr qu'à un moment ou un autre, on l'aura dans les studios pour venir en parler. Pour gagner vos places pour ce concert du jeudi 10 octobre à La Source à Fontaine, vous envoyez le mot de passe PURDA. P-U-R-D-A à concours@campusgrenoble.org. concours@campusgrenoble.org. Je rappelle au mauvais élève qui était nul en orthographe que concours est un mot invariable et qu'il prend toujours un S. C'est important. Et si le mot de passe pour ce concert, c'est Purda, c'est que c'est également le nom du nouvel album de Julie Bali. En attendant qu'il sorte, puisque son jour de sortie, ce sera le 10 octobre, le concert servant de vernissage à cette sortie d'album. On va écouter un titre ancien, peut-être pas le mot qui convient pour une jeune femme comme Julie Bali, mais voici un titre de son disque précédent, Julie Bali dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Toujours sur Campus Grenoble 90.8 en direct ou en différé sur campusgrenoble.org. À l'instant, c'était Julie Bali avec un titre de son précédent disque. Le tout nouveau sort jeudi 10 octobre. Et pour célébrer ça, elle sera sur la scène de la Source à Fontaine en compagnie des Soviets Souviettes. On vous fait gagner vos places pour ce concert. Vous envoyez le mot Purda, P-U-R-D-A. C'est le titre du nouvel album de Julie Bali. Vous l'envoyez à concours@campusgrenoble.org. concours@campusgrenoble.org pour gagner vos places, pour aller la voir et l'écouter sur scène. On est toujours dans l'apérophonie en compagnie du président de l'association Aconit. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'association, c'est aconit.org, A-C-O-N-I-T.org. C'est bien ça ?
Absolument. Tout à fait.
Et donc, on a évoqué les trois expositions qui sont en cours à Échirolles jusqu'au 6 novembre, à Pierre et Marie Curie, à Marie Curie, au lycée Marie Curie, à l'Institut de communication et à la mairie d'Échirolles. Et puis, vous allez venir participer à la fête de la science.
Ah oui.
Un des gros rendez-vous annuels.
Alors la fête de la science, c'est national, hein, c'est une très belle initiative. Oui. Avec une mobilisation remarquable des chercheurs et de beaucoup de bénévoles. La fête de la science est distribuée sur le territoire et on a un très bel événement sur le campus qui s'appelle, déjà depuis plusieurs années, 28 nuances de science. C'est un très bel espace qui habite à la fois le bâtiment Ève, le bâtiment IMAG et un bâtiment moderne avec un hall magnifique. Et là arrivent donc les jeunes collégiens, les jeunes élèves qui ont retenu des visites dans différents domaines qui touchent aussi bien à la terre. Et chacun va apporter une meilleure connaissance pour l'avenir de ce que fait la science aujourd'hui. Mais pour comprendre ce que fait la science aujourd'hui, c'est aussi intéressant de l'enraciner dans ce qu'elle a été pour mieux comprendre. Donc nous aurons dans le hall du bâtiment IMAG un accueil pour de jeunes élèves qui portera sur une histoire de l'informatique, mais réalisée par une personne qui a vécu, qui a enseigné l'informatique, donc qui a connu justement ce dont vous parliez tout à l'heure, MO5 ou TO7, mais pas que. Et ça, pour avec simplicité, bien sûr, pour que ce soit accessible à chaque... Et toujours pareil avec des groupes, de manière à ce que l'on tienne compte des sensibilités, que chacun reparte avec un peu d'acquisition et envie de continuer sa recherche. Et pourquoi pas sur le site d'Aconit, parce que sur le site d'Aconit, pas mal d'applications, de parcours, de salles sont visitables depuis son ordinateur quand on est rentré.
Des visites virtuelles.
Voilà.
Et des visites en vrai, c'est bien aussi parce que moi, je suis un peu venu par hasard l'année dernière sur la fête de la science. C'était la première fois que j'y participais. Je vais pas dire mon âge, mais je suis plus un élève. Hein. On peut toujours reprendre ses études à tout moment, mais bon, moi, c'est pas le cas. Et j'étais pas l'élève le plus performant dans les sciences, mais je me suis bien régalé. J'avoue que je pensais pas trouver autant de choses variées et qui seraient susceptibles de m'intéresser. Donc j'invite tout le monde à venir vous voir et à participer parce que y a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants. Et je pense que les parents, parce que on va pas se mentir, parfois quand on est parent, on accompagne pour des activités des petits et on s'ennuie assez profondément pour pas dire autre chose. Et là, à la fête de la science, il y a moyen de vraiment s'intéresser, de participer également et d'apprendre plein de choses.
Ce que vous décrivez est important parce qu'on se rend compte que le samedi, hein, c'est porte ouverte.
Oui.
Et on a beaucoup d'enfants qui ont apprécié la visite avec leur enseignant, qui tirent les parents le samedi pour leur présenter ce qu'ils ont apprécié.
Ouais.
Je trouve ça merveilleux comme fonctionnement.
Ben, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je voulais faire de la manutention sur l'événement et je suis resté à essayer plein de trucs, à découvrir, à passer d'un stand à l'autre. Vraiment, c'était absolument une très très belle découverte et j'invite tous les gens qui ne l'ont jamais fait à faire le pas en avant pour venir parce que c'est assez amusant. On peut en apprendre plein de choses, on peut repartir avec des éléments de recherche pour chez soi et des idées et franchement, je m'attendais pas à ça.
Oui, consultez bien le programme.
Oui, parce qu'il est copieux. Tout,
selon l'endroit où vous habitez, vous n'êtes pas obligé de traverser toute la ville pour venir sur le campus. Hein, à portée de main, vous avez souvent...
Oui, parce que sur Grenoble, il y a 8 pages d'événements. Donc, on peut aller chercher sur le site. Il y a un fascicule. Il y aura pas mal d'informations dans les différents médias de l'agglomération. Et ce serait dommage de passer à côté parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. On a dit aussi qu'on allait parler de l'association Inconnite de façon plus précise, notamment parce que pour organiser tout ça, porter tous ces événements et faire de la médiation, il faut des gens,
oui.
Des bénévoles.
Absolument.
Vous êtes combien à peu près, vous, dans votre dans l'association ?
En personne physique, on est 40 personnes. Mais en réalité, on est beaucoup plus parce que nous avons pas mal de structures qui adhèrent et qui, elles, évidemment, comportent un nombre important de personnes. Donc, c'est à travers, par exemple, quand on a des salariés de ST ou de HP qui viennent visiter, mais pas que. On a aussi des branches d'activité qui ne sont pas l'informatique, comme par exemple les cabinets de comptabilité, hein, qui nous demandent à faire des visites, ou même les directions de ressources humaines qui sont venues, ou les directions de services informatiques. Parce qu'il y a un moment donné, se mettre en situation, c'est toujours le dépaysement.
Ben oui.
Hein, donc il y a un éveil qui est différent, voilà, c'est ce que l'on apporte. Donc ça, ce sont les bénévoles actifs, je dirais, ceux qui... Mais la question du bénévolat que vous posez est une question qui est importante parce que ce que nous voulons, c'est que chacun puisse trouver dans l'association un intérêt en fonction de ce qu'il, lui, a envie de faire. Parce que le monde de l'informatique est tellement vaste qu'il y a tellement de pistes que dès l'instant, on a la chance d'avoir quelqu'un de qualité qui vient. Souvent, on les dit, trouve-toi un binôme parce que c'est plus sympa. Le jour où tu n'as pas envie de venir, c'est le binôme qui vient. Et puis à deux, on peut aborder les problèmes et les régler beaucoup plus facilement que tout seul. Et c'est un plaisir. Donc, on a tous les mardis matins une réunion de coordination pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi. Et le mercredi est une journée porte ouverte avec tous les bénévoles qui viennent, qui apportent leurs idées, qui participent. Et le reste du temps, les bénévoles guident des visites, mais sur rendez-vous. Puisque nos locaux ne permettent pas des flux importants, donc on doit réguler.
Ah oui, bien sûr. Donc pour vous contacter, on fait comment ?
Alors le plus simple, évidemment, c'est info@aconit.org. Si vous perdez l'adresse, vous allez tout simplement sur le site aconit.org. Et là, vous allez trouver tout un ensemble d'informations et vous pourrez même déjà préparer votre visite. Car vous avez accès à travers, sur la colonne de gauche, vous avez bien sûr possibilité de rentrer dans les expositions, les collections, de suivre des parcours. Et si vous recherchez un objet particulier, d'aller avec un outil de recherche qui est en bas et de taper le nom de cet objet pour le retrouver à travers les différentes possibilités d'accès.
Il est foisonnant votre site, hein ? Il y a plein de choses quand même. On voit que c'est pas une association où on se tourne les pouces.
C'est vrai, c'est vrai. Et pour un site qui est en français, mais actuellement on a une aide d'une équipe de l'université pour qu'il soit traduit, mais en français on a plus de 300 000 visiteurs par an et plus d'1 500 000 pages téléchargées. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai partage, quoi, un véritable attrait et que la qualité des informations... disons, intéresse pas mal le monde.
Oui, après, on a la chance aussi d'être à Grenoble dans un environnement qui est assez orienté vers ça, donc ça facilite aussi. Ce qui est enrichissant pour vous, comme on le disait, c'est-à-dire que depuis voilà, l'histoire de l'informatique à Grenoble, c'est un long parcours.
L'histoire de l'informatique à Grenoble a amené la situation actuelle. On a aussi de grosses entreprises de l'électronique, comme ST, hein. De l'informatique comme HP, enfin maintenant HP Inc, HPE, etc. Nous avons également des gens qui sont dans le logiciel, proprement parlé, donc qui développent évidemment et des belles entreprises comme Ardis, etc. On a des clubs importants, on a la French Tech, avec le festival Transfo chaque année, donc auquel on participe puisqu'on est membre fondateur. On a des organisations comme Digital League. Donc vraiment, si Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est d'arriver à ce que les générations puissent parler de leur métier.
Ben oui.
Et parler du métier est quelque chose qui est important dans une ville comme la nôtre. Mmh. Mais c'est quelquefois difficile de parler de son métier parce que l'informatique, c'est quoi ? J'étais dans l'informatique. Comme ce que dit, j'étais médecin. Oui, de quoi ? Tu travailles dans un labo ou tu étais médecin de campagne ? C'est la difficulté. Donc pour nous, ça rejoint, si vous voulez, là, la notion de qui trouve un attrait dans l'informatique. Eh bien, quand vous regardez les femmes de l'informatique, puisque ça va être le sujet d'une des conférences qui va venir dans les jours qui viennent, les femmes de l'informatique, les hommes, bien sûr, on en parle, sont nombreuses. Les plus grosses responsabilités ici, sur notre site, sont tenues par des femmes. Mmh. Et parce qu'il y a une richesse où les femmes excellent. Et pratiquement, qui n'a rien à voir avec l'image du geek, enfin de,
moins.
Ce que malheureusement dénature un petit peu l'informatique au détriment de certains usages. Enfin, pas au détriment, certains usages qui en font pas quelque chose à la hauteur de ce que l'informatique nous apporte.
Et de ses possibilités.
Tout à fait.
Vous disiez aussi que vous aviez beaucoup de choses à montrer parce qu'on vous a fait beaucoup de donations, de dons, de matériel, etc.
Oui, aujourd'hui, donc, on a terminé le récollement. C'est-à-dire que tel objet, on sait à quel endroit il est, quel étage, on sait quand il est sorti, dans quelle exposition, quand il est rentré. Donc, qui en a bénéficié, donc, ce qui permet de bien organiser les expositions donc, que l'on distribue sur le territoire, puisque vous l'avez compris, en interne, on n'a pas beaucoup de place pour les visites, mais pour des petits groupes, ça se fait bien. Actuellement, nous avons 30 000 objets. 30 000 objets, ça représente évidemment une acquisition au fil des années.
Oui, depuis 85.
Voilà. Ce récollement étant fait, nous sommes maintenant dans la phase où nous devons commencer à dire qu'est-ce qui est important. Et c'est là où de travailler avec des gens qui ont vécu ces périodes, c'est de déterminer les critères d'importance. Quel est l'ADN de la Conite ? Quel est l'intérêt ? Quels sont les objets ? Pourquoi ces objets-là ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont grenoblois ? Est-ce que parce qu'ils ont un intérêt pédagogique ? Est-ce que c'est parce que c'est l'informatique française ? Et puis, à partir de là, de faire une grille, une sorte d'entonnoir qui nous permettra de dire, ben, finalement, sur les 30 000 objets, si on veut continuer à recevoir des dons, il va falloir que l'on arrive à serrer, en quelque sorte. Voilà le chantier que nous avons. C'est pour ça que, vraiment, là, je fais un appel à tous ceux qui ont connu ces périodes pour venir nous donner quelques pistes et puis nous aider à faire le renseignement des 30 000 fiches que ça représente.
Donc info@aconite.org si vous voulez donner un coup de main, devenir bénévole. Si des gens ont des objets assez étonnants en matière d'informatique, ils peuvent vous contacter aussi.
Bienvenue.
D'ailleurs, justement, ces dons, ils viennent de particuliers, d'entreprises, de le matériel, il vous est arrivé comment ?
Ces dons nous sont arrivés de façon très diverse. La plus prosaïque, c'est on va vider la cave. Alors, entre la déchetterie et la cave, il y a Aconite, on vous téléphone. Bon, c'est sympa, on y va, on fait le tri.
On fait le tri, oui.
Mais la dernière qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que donc nos membres font des articles dans Écoscience Grenoble. Et on a dit que l'on avait le premier ordinateur français, Alcyone, etc. Et que cet ordinateur, déjà à l'époque, on pouvait travailler en grappe. Donc, on augmentait évidemment la puissance de ce système. Et nous recevons un jour, sur info@aconite.org, un message d'un homme de Picardie qui dit « J'ai vu votre article, j'ai deux Alcyones, je descends dans 15 jours, est-ce que je peux vous les poser ?»
Mais oui, bien sûr.
Une merveille. Avec toute la documentation.
Oui, surtout ça.
Ce monsieur, quand son entreprise a été rachetée, a été connecté au gros système de l'entreprise qui avait acquis, eh bien... il a pris tous les éléments, depuis le bon de commande jusqu'au manuel d'utilisation et les applications derrière. C'est-à-dire les cartes qu'ils ont ajoutées pour les adapter. Enfin, c'est
les
vraiment...
évolutions.
Oui, ça donne quelques exemples simples. Et puis, il y a la personne simple qui dit « Moi, j'ai un vieux Mac, il fonctionne toujours, mais je n'ai pas d'écran. » Enfin, bon, voilà. Donc, heureusement que nous avons une capacité à travers nos membres de trier, pas de trier, mais dirons de recevoir ces offres et puis de les valoriser et quelquefois de les réorienter aussi, parce qu'on a des demandes, bien entendu, des gens qui disent ben moi j'ai un vieux Mac, je voudrais bien trouver, ou un Amstrad, ou je fais des jeux. On a des organisations de retro gaming qui prennent contact aussi.
Ben oui.
Voilà. Et on a aussi des choses très curieuses, c'est qu'on nous dit voilà, j'ai un paquet de cartes perforées, je voudrais bien retrouver le fichier. J'ai une disquette qui fonctionnait sur telle et telle machine. Est-ce que vous pourriez la relire? J'ai besoin des informations qui sont sur la disquette. Et donc, avec des élèves ingénieurs qui viennent chez nous travailler entre minuit et les couvertures ou autres, on a plusieurs développements qui permettent de répondre à ces besoins, à ces demandes.
Oui, c'est parce qu'on discutait avant cette émission, ma maman ayant fait de la comptabilité, elle avait un appareil avec la lecture de bande perforée. Je trouvais l'appareil très, très joli, mais après je me suis dit, mais en fait c'est devenu quoi ce truc-là et qu'est-ce qu'on fait de tous les... Enfin, c'est pas des fichiers, mais toutes ces bandes, est-ce qu'on peut les relire, est-ce que ça sert encore à quelque chose, etc. Vous êtes capable de répondre à ce genre de questions.
Absolument.
Bien, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Que le site, c'est aconit.org, que pour vous joindre, c'est info@aconit.org, que vous serez sur la fête de la science pendant tout le temps qu'elle dure, et avec notamment ce point d'orgue le samedi, ici, sur le campus de Saint-Martin-d'Air.
Les trois jours.
Et les trois jours.
Hein, samedi pour toutes les familles.
Oui, le puis, samedi, c'est ouvert au public. Voilà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, oui. Parce que pour les jours précédents, c'est uniquement les professeurs qui encadrent leurs élèves. Donc là, il y a un vrai programme auquel on ne peut pas déroger. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont jamais participé, venez faire un tour à la fête de la science le samedi. Il faut que je compte parce que je ne suis pas bon. Ça tombe le 5, c'est ça? Le samedi, alors attendez, on est le combien? On est le 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, oui c'est bien ça, il me semblait que ma mémoire ne me trompait pas. Et
Attendez, quand on dit pas de sottises, c'est cette semaine, on est quel jour aujourd'hui?
On est mercredi.
Donc la fête de la science commence...
Le 5.
Le 5, donc le 6. Oui, ouais. C'est ça.
Faut qu'on vérifie.
Petit temps.
Oui, vérifions. Vérifions les informations avant.
La journée était longue, n'est-ce pas?
On n'en parlait pas.
Du 5 au 13 octobre.
C'est bien ça.
Voilà.
Et puis, effectivement, si vous avez envie de piocher un peu, je peux vous dire que le site d'Aconit, il y a matière, il y a beaucoup de choses à voir. Une perforatrice IBM.
Ah oui, pourquoi pas?
Non, c'est parce que je suis en train de dérouler, et donc comme on en parlait à l'instant, je vois exactement l'objet qu'on a eu à la maison, donc et pour ça. Et puis donc, comme toutes les associations, vous cherchez des bénévoles pour les expos suivantes, de nouvelles idées.
Oui, et renseigner, parce que l'intérêt de ces objets, c'est vraiment de les mettre dans un environnement. Je vous donne un exemple à l'heure actuelle. Mmh. Nous avons fait une exposition permanente dans le hall du bâtiment IMAG, dans le hall du bâtiment IM2AG. Et à l'ENSIMAG, chaque année, on a une promotion qui décide de choisir un objet, de le valoriser, de le remettre dans son histoire, mais évidemment, de s'y travailler de telle manière qu'on puisse le faire fonctionner comme si. Comme les problèmes de condensateur de résistance, tout ça ne permettrait pas. Donc, on a une petite astuce derrière pour lui faire faire des choses qui le rendent plus vital. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ces groupes d'étudiants qui travaillent sur, à l'époque, l'histoire, le fonctionnement. Donc, de se mettre dans ce que vous décriviez tout à l'heure, la situation de... pas de rétro-engineering, ça serait beaucoup dire, mais c'est mieux que le rétro-engineering, puisqu'on voit dans la société quel était l'usage...
De la chose.
Voilà.
De la chose, on dirait un personnage de film de science-fiction d'un coup. Je crois qu'on a fait le tour.
Oui, je vous
en remercie. Merci d'être venu. On se revoit pour la prochaine session. En cours d'année, vous avez aussi d'autres événements. Il y a pas que... C'est vrai que la rentrée, forcément, c'est quand même un entonnoir où il se passe beaucoup de choses, mais ce n'est pas le seul moment de l'année.
Tout à fait.
À très bientôt alors.
Avec tous nos remerciements pour Radio Campus.
Merci à vous d'être venu, donc à aconit.org pour en savoir plus. Et maintenant, une interview d'un groupe qui sera en concert. Ce sera ce vendredi, ce sera à la Belle Électrique à Grenoble. Hop, vous êtes bien dans l'apérophonie sur Campus Grenoble.
Artibel au 90.8. En tournée en 2000.
On recommence. Hop là, j'ai raté le début. C'est pas grave. C'est pas comme si on était en direct.
Un goût amer dans les syllabes et du spleen en décibels. O2N sera en tournée en 2019 et 2020. Ce vendredi, un concert a lieu à Grenoble à la Belle Électrique. Et pour l'occasion, on a invité Jacques Cormary, un des trois membres du groupe de O2N. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Campus Grenoble.
Mais de rien, merci de l'invitation.
Eh ben, je vous en prie. On va se tutoyer pendant l'interview. Il y a moyen que des fois je te vous vois, mais bon, c'est pas fait exprès. Alors déjà, ben, comme c'est votre deuxième date de votre tournée, je crois, celle de Grenoble, parce que vous avez déjà fait une tournée, vous avez déjà donné un concert à Bordeaux.
Oui.
C'est la ville de deux des membres. Je voulais juste savoir comment ça s'était passé.
Très bien, c'était les Compulsations, donc en plus en partenariat avec Campus à Bordeaux.
Ouais.
C'était concert gratuit à la maison, parce qu'on vient d'ici. Il y avait beaucoup de monde. Le concert était hyper bien, c'était super. Donc on était très contents, mais généralement, sans vraiment de prétention, les concerts sont toujours bien parce qu'on a un super public.
Ouais.
C'est un peu plus compliqué quand le public est pas là, on va dire. Là, ils sont toujours là, où qu'on aille, et ça fait toujours vachement plaisir. On a des super souvenirs de Grenoble, on avait joué à l'Ampérage, et ça faisait longtemps qu'on avait hâte de revenir.
Après, c'est vrai que quand on joue dans des festivals qui sont gratuits, on retrouve bien sûr des personnes qui nous suivent en tant qu'artistes, mais il y a aussi un public à conquérir aussi. Est-ce que vous avez...
Toujours, mais là, tu es à la maison. On habite à Bordeaux, donc il y a plein de gens qui nous connaissent ici.
Mm-hmm.
On a toujours, après, quand on va dans d'autres régions pour faire des festivals comme on a fait cet été. Si tu veux, comme la tournée elle a commencé en octobre de l'année dernière, en 2018, parce que c'était pour Obacara, et que là on a ressorti Pushkin, donc on repart en tournée. Mais comme on était parti en 2018, on avait été déjà dans plein de villes, et on avait fait déjà une tournée assez fabuleuse, pleine partout. Donc quand tu reviens après dans ces régions et que tu joues en festival, tu as quand même un beau... Un très beau devant de scène, on va dire. Et après, bon, tu joues pour eux, tu joues pour les gens qui passent comme ça, etc. C'est un peu différent d'une salle, effectivement. Mais ça se passe toujours assez bien.
Et pour cette tournée-là, pour Pushkin, du coup, vous allez jouer principalement des morceaux de cette EP qui est sorti là en septembre.
On va jouer tous les morceaux de Pushkin. Mmh. On va jouer des morceaux de Baccara, on va jouer des morceaux de Dolziger, on va jouer des morceaux de Rien. On essaie de rentrer là des morceaux de OVNI, un peu anciens.
Ouais.
Donc on va jouer un peu tout, un peu tous les disques.
Super. Et depuis le premier album Sans Chantilly, qui est sorti en 2008 aux côtés de DJ Logis, vous avez fait 4 albums, 2 EP, dont le dernier dont tu viens de parler, Pushkin, sorti en septembre, après donc au Baccara. Comment est-ce que le poète Alexandre Pushkin il vous a inspiré pour cette EP?
C'est avant tout parce qu'il y a le morceau Pushkin qui sort. Après Alexandre Pushkin, il y a un poète particulier qui... un classicisme dans l'écriture, mais qui en même temps pointait du doigt beaucoup de choses à l'époque en Russie, parce que c'était encore sous l'époque du tsarisme, qui était métisse, comme Alexandre Dumas. Donc, en Russie, à son époque, être métisse, c'était peut-être pas très évident, mais en même temps, il a un poème qui est très marrant où il dit que c'était la coqueluche de la cour parce qu'il était métisse et que les femmes le trouvaient plutôt exotique. Et après c'est un grand romantique et il est mort dans un duel un peu foireux parce que il a provoqué l'amant de sa femme Et ça s'est retrouvé qu'il a provoqué au final le père de l'amant de sa femme, qui était un grand général des armées russes, et qui lui a dit, écoute, je vais te faire la peau parce que c'est mon métier, je viens de l'armée, quoi. Donc si tu me fais des excuses publiques, je passe l'éponge. Il a dit non, je fais le duel. Donc il est un peu mort comme ça, un peu bêtement dans son truc de romantisme, quoi, un peu perdu.
Ouais.
Après le truc, c'est que dans ce morceau, il y a une espèce de dualité, comme dans le duel, qui est de, je suis désolé, hein, je change de pièce parce que les autres reviennent. Qui est de, par exemple, dans ce morceau, c'est l'amour blessé contre l'amour blessant. Donc ça arrivait comme une évidence quelque part. Et en plus, il y a 221e anniversaire de Pushkin cette année.
Aussi, je me demandais s'il y avait une espèce de d'ironie aussi que vous aimez bien. Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais que vous avez des paroles assez tristes et de plus en plus un son. Des synthés un peu nostalgiques, mélancoliques, et je me demandais si ça c'était une direction que vous prenez de plus en plus et que vous...
Ouais, après, sans vouloir aller contre ton ressenti, parce que je peux pas aller contre ton ressenti, mais il y a quand même des moments où les paroles ne sont pas vraiment tristes sur certains morceaux, tu vois.
Il y a
même des moments lumineux. Après, avec la musique, quand tu prends le morceau comme Bleu Fuchsia, c'est une musique qui donne plus envie de danser que de pleurer, tu vois. Donc, moi, je trouve plutôt même un équilibre sur les différentes émotions, les différents moods dans lesquels un homme peut être. Je dis homme à un être humain.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'a écrit, Bleu Fuchsia. C'est inspiré de ton expérience au marché de Rungis, où tu as travaillé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as voulu écrire et composer ce morceau? Comment vous l'avez transcrit donc, du texte au son assez lumineux, justement?
Si tu veux, j'aime beaucoup écrire, donc j'écris un peu tous les jours, etc. Donc j'ai des poèmes sur tout et rien, et ça a été un sujet que j'avais envie de traiter sans me dire que ça allait être une chanson, tu vois,
mm-hmm.
parce que le texte est un peu plus vieux que d'autres textes. Mais non, c'est retranscrire ce que j'ai vécu là-bas. C'est aussi un hommage à tous ces gens qui font ces métiers-là, tu vois, qui sont rarement représentés dans l'art en vrai, tu vois. Et je parle plutôt sérieusement et en ayant conscience que beaucoup de gens vont faire des textes engagés pour les minorités, etc. Et on parle rarement des gens qui poussent des transpalettes, qui vide des camions, qui se lève à 4h du matin, etc. Tu vois. Donc moi, c'était une façon de le faire. Et après, ce morceau, on a fait 5-6 versions. Il y avait des versions qui étaient beaucoup plus mélancoliques. Mais là, on voulait pas le sortir tel quel. Parce que ça donne un côté germinal, si je peux un peu vulgariser le propos. Tu vois, ce côté un peu... tu fais une musique triste, t'as un mec qui te raconte l'histoire un peu ouvrière et il aurait pu manquer qu'un clip où tu vois des gueules cassées, des mecs en bleu de travail. Et non, là, tu deviens tout de suite un produit quelque part, tu vois. Alors que non, tu vois un mec qui a travaillé il y a 15 ans ou 20 ans dans ces conditions-là, qui te le dit comme un souvenir et dans le clip qui est au bord de la plage et qui danse et qui est sur une musique qui donne envie de danser. Je trouve ça plutôt honorable et juste par rapport aux gens qui travaillent là-dedans.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, juste avant, au niveau de l'équilibre aussi.
De l'équilibre, évidemment. Il faut toujours essayer de trouver l'équilibre, le juste milieu.
Puis effectivement, vous parlez de ça, mais vous parlez pas à la place d'eux, quoi.
Donner des leçons aux gens, c'est un peu compliqué dans le sens où, dans le sens où 4 fois sur 5 tu te trompes.
Ouais.
Parler à la place des gens, tu te trompes 99 fois sur 100.
C'est clair.
Donc, non, parle de ta voix, parle de ta vie, parle de ce que tu as vécu, essaye pas de donner trop de leçons et essaye de faire des chansons. Déjà, c'est pas mal, tu vois. Mais c'est la chose qu'on se dit à nous, pas la chose qu'on dit aux gens de faire, hein, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Mais nous, on procède comme ça.
Et ben d'ailleurs, vous êtes tous les trois auteurs et compositeurs dans le groupe.
Oui.
Comment est-ce que vous, ça marche, cette osmose entre vous, la création à trois?
Et ben, Mathias fait la musique en bas. Quand il y a des boucles ou quoi que ce soit qui nous plaisent, parce que nous on est en haut, l'étage d'au-dessus. Lui il est dans la cave, nous on est dans la salle d'attente au-dessus.
Ouais.
Et après, ben, on prend des boucles, on travaille dessus avec Alix, souvent à quatre mains, en écriture directe l'un en face de l'autre sur un Google Doc. On pose un petit truc sur un micro USB, ça redescend en bas, Mathieu il arrange, il renvoie, nous on repose parce qu'on a réécrit peut-être plus long, on a amélioré les choses. Ça c'est comme ça se passe 90% des cas. Après il y a des fois bah, le texte arrive avant, mais Mathieu va arranger dessus et on va chercher d'autres trucs. Ouais. Mais je sais pas, il se passe quelque chose d'obscur, je peux pas t'expliquer comment ça se passe, tu vois, j'aimerais bien parce que j'aurais dans le coin de la tête une espèce de méthode, mais il n'y a pas de méthode vraiment, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, quoi,
tout c'est simplement. Ça c'est un peu la magie de la création.
Comment?
C'est un peu la magie de la création.
Exactement,
en fait.
Exactement. Et après ouais, en termes administratifs c'est 33 33 33,
ouais,
les textes et la musique, parce que j'aurais pas écrit ça s'il n'y avait pas eu les deux autres. Alix n'aurait pas écrit ça s'il n'y avait pas eu les deux autres. Et Mathias n'aurait pas fait cette musique s'il n'y avait pas eu les deux autres. Donc, 33-33-33. C'est un espèce de partage équitable qui fait que tu te casses pas la tête pour des centimes, des euros.
Bon, c'est très bien.
Et on le voit comme ça, hein.
Non, mais de toute manière, c'est vrai que c'est, ça se ressent bien que, enfin, il y a vraiment un truc où vous tenez à être ensemble. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à votre succès qui est grandissant. Vous avez quand même la volonté de rester en autoproduit sur le label Universal. Je voulais savoir quelle importance ça avait pour vous de rester encore indé.
Plus on avance et plus on se dit que c'est la meilleure des solutions parce que tu fais ce que tu veux. Donc déjà, tu sais, comme disait l'autre, la liberté c'est la solitude. Si tu veux être totalement libre, il faut être seul.
Ouais.
Donc déjà, on a une espèce de grande liberté parce qu'on est seul. Après, on a des équipes autour, on a plein de gens autour de nous, tu vois. Mais ça nous permet de garder les pieds sur terre, d'avoir de l'humilité. Et après, si on s'occupe pas de notre label, etc., qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'on va pas écrire 20 heures sur 24 et on va pas chanter 20 heures sur 24 et on va pas composer 20 heures sur 24. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être là à la première composition de notes de Mathias, d'écrire le premier mot. Et tu vois, la semaine dernière, je sais pas, j'ai envoyé 600 colis en 4 jours. J'ai dormi 3 heures par nuit parce que j'envoie les gens qui nous commandent les disques et qui sont nombreux. Ils ont chacun une dédicace. J'écris les adresses à la main et j'envoie tous mes colis. Et que ça me fait plaisir de réagir comme ça. Quand Alix, il va écrire un clip, il va monter une équipe, ça lui fait plaisir de monter un projet comme ça. C'est vraiment important de remplir son temps de A à Z quand même.
Ouais. Et puis,
parce que souvent, l'artiste maudit, c'est qu'il a du temps hors création à se dire « mais je suis maudit, moi j'ai pas le temps de me dire que je suis maudit, moi j'ai le temps de me dire que je suis béni puisque j'ai toujours quelque chose à faire ».
Merci beaucoup, et puis vous êtes en concert ce vendredi à Grenoble et en novembre à Lyon et Annecy. Voilà. Bonne tournée alors.
Et à vendredi.
Merci,
ciao.
Salut.
Et voilà, merci Marika pour cette interview de Odezen qui sera donc sur la scène de la Belle Électrique le vendredi. L'apérophonie c'est terminé, merci de votre attention, on se retrouve très bientôt. Moi j'anime Voix de Garage tous les mercredis soirs à partir de 19h30, donc si vous m'écoutez en direct dans une demi-heure, on remet le couvert pour annoncer plein de concerts à voir dans les environs plutôt orientés rock à guitare. Et puis parler des nouveautés de la rentrée. L'apérophonie continue très bientôt sur Campus Grenoble 90.8.